Bonjour, bientôt 6 mois que cette émission existe, que chaque semaine nous vous en proposons de déguster un nouveau vin, que chaque mois nous abordons une nouvelle région, et voilà que naissent nos premiers débats éditoriaux qu'il me semble utile de vous faire partager. Au fil des émissions, nous avons eu la chance de rencontrer d'illustres vignerons comme Antoine Arena en Corse ou Pierre Auvernois dans le Jura, ou encore Stéphane Tissot dont nous préparons un prêt en grand format, et d'autres encore, espérons-le, à venir. Ces vignerons, inconnus pour beaucoup, sont de vraies célébrités pour les initiés, et il nous arrive, c'est vrai, de citer aussi d'autres noms de ceux qui font référence, chacun dans sa région et souvent bien au-delà de nos frontières. Et voilà qu'un avis critique est émis au sein même de la rédaction, si on peut l'appeler ainsi, de la terre à boire. On fait trop de cas de gens qui sont déjà des stars, n'ont pas besoin de notre publicité. Et puis, le name dropping pour citer des vins introuvables ou inaccessibles au commun des mortels, laissons cela aux médias établis. Non, notre rôle à nous doit être d'abord de braquer la lumière sur des vigneronnes et des vignerons moins connus, courageux, qui font le choix du bio, de la biodynamie, et ne peuplent pas chaque semaine les colonnes de la RVF, la fameuse revue du vin de France. Alors, vous le savez, nous nous appliquons aussi à parler des plus petits producteurs, comme Gaudry en Champagne, Valot à Vinsobre, Janin à Moulin-Vent, Joubert à Brouilly, à les rencontrer parfois, comme Laureline Laborde, qui nous a livré ce témoignage passionnant dans l'épisode 20. Bref, il va sans dire que nous allons continuer à parler de toutes et de tous, en cherchant le bon équilibre. Pourquoi se priver d'échanger avec des artisans de génie qui portent haut le métier de vigneron, et même si, certes, ils n'ont pas vraiment besoin de notre publicité, mais que cela ne nous empêche pas de parler des domaines moins visibles, de valoriser toujours le travail respectueux du terroir et de l'environnement. Oui, nous aussi, nous avons choisi d'être en même temps ceci et cela, car c'est bien la diversité des points de vue qui fait avancer les choses. Ce 22e épisode s'intitule « Les vins de Loire par la face rouge ». Bienvenue dans la terre à boire. Nous voilà donc pour ce nouveau cycle dans la terre à boire, à la découverte des vins de Loire. Donc c'est un immense vignoble qu'on a décidé d'aborder par sa couleur rouge dans un premier temps, plutôt que de découper tout ça en sous-régions et regarder les rouges et les blancs en même temps. On s'est dit, pourquoi pas cette fois-ci avoir une vision un peu transverse de toute cette grande région de la Loire, en prenant le choix d'identifier 4 vins, puisque c'est notre habitude, vous savez, un vin par semaine pour couvrir un mois. Et cette fois-ci, 4 vins rouges qu'on a choisis, évidemment, comme d'habitude, assez différents les uns les autres. Avec moi autour de la table, Patrice Defay, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va, Patrice ?
Très bien.
Très bien, prêt à parcourir cette belle région de la Loire à travers ces vins rouges ?
Oui, ce sera un long parcours parce que la Loire est longue.
La Loire est longue, mais il y fait beau et puis il y a quelques châteaux à visiter sur le chemin. Et bonsoir, Laurent Delceau.
Bonsoir.
On est ravis de te retrouver, ça faisait quelques temps quand tu n'avais pas eu.
Effectivement, ça faisait un moment et je suis tout aussi ravi.
Patrice, qu'est-ce qu'on peut dire d'une manière générale sur ce vignoble de la Loire, sur les vins rouges de Loire ?
Alors, si on prend une vision très 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 haute et très 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 hélicoptère, d'abord la Loire, c'est un plus de 1000 km. C'est la troisième région viticole en France, après Bordeaux et Bourgogne, à la fois en termes de taille et en termes de volume. C'est une région qui a du coup une grande diversité, pratiquement 24 cépages dans 50 appellations différentes, donc c'est assez conséquent et important, et à peu près 2700 vignerons, donc on est sur quelque chose de très 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 important, et plus de 50 000 hectares. On peut distinguer, c'est un choix de le couper comme ça, mais je dirais 4 grandes zones, tout ce qui va être les sources de la Loire, où là on a des choses assez peu connues mais qui commencent à être assez intéressantes, avec 4 appellations principales que sont les Côtes d'Auvergne, Saint-Pourçain, les Côtes du Forez et puis la Côte Rouennaise qui se révèle pas mal en ce moment. Quand on remonte en Centre-Loire, on va avoir deux gros territoires avec Sancerre, Mentoux-Salon et puis tout ce qui va être Pouilly-Fumé. Ensuite Val-de-Loire, hein, qui concentre l'essentiel, je dirais, des rouges et du chenin, donc avec Saumur, Touraine, etc., etc. Et enfin, tout le pays nantais, qui est surtout incarné en blanc par le Muscadet. Donc voilà, donc c'est une région très, très, très hétéroclite, pardon, très très disparate, qui est réunie sous le terme Val-de-Loire, peut-être d'ailleurs de manière un petit peu factice. On pourrait imaginer un autre découpage, parce que entre les sources de la Loire et puis l'estuaire à Nantes, il y a beaucoup de kilomètres et il y a beaucoup de latitudes qui changent. Mais globalement, voilà, on est sur une région très très disparate et très très diverse. Ce qu'on en connaît essentiellement, c'est principalement le Val de Loire, avec Saumur, Champigny, Chinon, Bourgueil, etc. Et la partie Sancerre, qui sont, on va dire, les vins les plus connus et les plus réputés, en tout cas en termes de célébrité ou de notoriété aujourd'hui. Donc voilà, dans les très 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 grandes lignes. Et après, si on le prend sous l'angle rouge, pareillement, on va avoir une assez grande diversité, avec très 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 schématiquement plutôt une base Gamay quand on est en source de la Loire, une proximité bourguignonne et donc beaucoup de Pinot sur le centre Loire, le cépage roi, je dirais Cabernet Franc sur le Val de Loire, mais aussi des choses assez intéressantes, notamment avec le Caux, et puis on abordera ça dans un prochain épisode, mais moi c'est pages que je trouve très intéressant, qui s'appelle le Pinot de Nice.
Et merci pour cette présentation, Patrice. On va déguster un vin comme d'habitude, on en parlera un petit peu après. Et justement, c'est un Caux, qui est un cépage voilà, qu'on connaît peut-être, moi que je ne connaissais pas, mais que je connaissais sous son nom. Ouais. Autre nom, qui est plus connu internationalement, qui est le Malbec. Mais quand il s'agit de vin de Loire, il ne faut pas dire Malbec, il faut dire Caux.
Oui, c'est bien ça. On le connaît aussi sous le nom d'Auxerrois, en réalité. C'est un cépage qui est très cultivé dans le sud-ouest de la France, à Cahors en particulier. Et là-bas, on l'appelle l'Auxerrois.
D'accord, c'est magique. Moi, c'est le nom de cépage qui change d'une région à l'autre. Merci, Patrice, pour cette première présentation. Et comme vous savez, on essaye, surtout pour ce premier épisode dans lequel on découvre un petit peu la région, de trouver quelqu'un sur place qui pourrait nous en parler avec une connaissance du terrain. Et puis on avait eu, rappelez-vous, en Corse, Maëlys Rey, qui est une blogueuse, Very Wine Trip. On a eu également Olivier Grosjean, qui est une autorité dans le domaine des vins du Jura. Et puis dans la Loire, on a trouvé un spécialiste. Bonjour Philippe Rapiteau.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Eh bien, très bien.
Très bien, merci.
Les températures glaciales.
Oui, en effet, c'est la même chose chez vous qu'ici à Paris. Aujourd'hui, c'était négatif. Hein.
On peut avoir une petite pensée pour les gens qui taillent dans la vigne.
Oui, en ce moment, ils sont dehors et c'est une nécessité parce que la taille, ça doit être fait entre février et mars. Et en ce moment, effectivement, ça pique un peu. Je pense qu'ils ont encore une bonne semaine de froid. Merci, Philippe, d'avoir accepté notre invitation pour parler un petit peu de ces vins de Loire. Vous êtes blogueur, donc, je le disais, votre site s'appelle La Pipette aux 80. Alors, vous écrivez pas que sur les vins de Loire, vous écrivez sur pas mal d'autres vignobles. Mais bon, vous êtes basé où, d'ailleurs ?
À La Roche-sur-Yon, en Vendée.
D'accord, en Vendée. Et
en
donc,
Loire méridionale.
Loire méridionale, qu'est-ce qu'on fait comme vin là-bas ?
On fait un peu de tout, on fait des blancs, des rosés, des rouges, des blancs à base de chenin et de chardonnay notamment. On fait des rosés assez classiques, plutôt dans l'esprit presque Côte de Provence, c'est-à-dire qu'en fait le vignoble vendéen, jusqu'à encore il y a très peu de temps, arrosait la côte pendant les vacances.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette petite présentation très très générale qu'a fait Patrice ? Ce qui distingue la Loire, c'est d'abord la taille de ce vignoble, et puis ce sont en fait plusieurs régions en une.
Oui, c'est-à-dire qu'on a peut-être même un peu de mal à n'en faire qu'une, véritablement, parce qu'entre les Gamay sur roche volcanique de l'Auvergne, et puis les Pinots Noirs, c'est quand même une grande, grande diversité. Plus le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon qui est parfois aussi un peu présent, les nouvelles tendances avec le Pinot de Nice, par exemple.
En termes de terroir, en termes de sol, on est sur, vous le disiez, du volcanique quand on est côté massif central, Gamay, et quand on se déplace vers l'ouest, on passe sur des sols plutôt argilo-calcaires.
La frontière, en fait, est intéressante à connaître, elle est au cœur de l'Anjou. Il y a ce qu'on appelle l'Anjou noir et l'Anjou blanc. Donc l'Anjou noir, c'est des sols schisteux, où il y a également du grès. Et l'Anjou blanc, c'est des sols calcaires, à l'image du Saumurois, par exemple. Il y a un domaine, notamment en Anjou, qui est juste à la limite, en fait, des deux, du bassin parisien et du massif armoricain, et qui produit des vins rouges issus de Cabernet sur les deux terroirs. Donc, c'est effectivement, ça fait partie de choses assez intéressantes à découvrir.
Donc, à mesure qu'on change, que les sols changent, les cépages, évidemment, changent pour s'adapter à ces sols. Patrice l'a dit, le cépage dominant, si on en cherche un, en tout cas dans les rouges, hein, parce que c'est les rouges qui nous intéressent, c'est le Cabernet Franc.
C'est ça, oui. Cabernet Franc, c'est Chinon, c'est Bourgueil. C'est parmi les appellations qui ont, on peut le dire, la plus grande notoriété, on va dire.
Ce qu'on constate, de manière générale, encore une fois, si on a une approche un peu générale, c'est qu'effectivement, ça monte beaucoup en qualité, mais on reste quand même sur une des régions, je dirais, les meilleures en termes de rapport qualité-prix, puisque dans les vins de Loire, on va dire que sur, on a des choses très très belles qui vont de 8 à 20 euros, et on a très très peu de vins très chers, alors à part les stars, bien évidemment... que sont Clos-Rougeard en Saumur Champigny, etc., mais qui ont aussi, eux, montré la potentielle du terroir. Hein, mais on est surtout, ce qui est bien en Loire, c'est qu'il y a une hyper grande diversité de terroirs, de cépages, etc., avec une grande qualité. Et en général, des vins, ça c'est lié, bien sûr, au vigneron, bien sûr, au terroir, mais en général, de grand équilibre.
Oui, on peut dire ça. C'est vrai que pour beaucoup de gens, les vins d'Anjou, notamment, voire de Touraine, ceux qui sont dans l'appellation Touraine, sont pour beaucoup de gens des vins abordables, mais pour pouvoir goûter et mettre sur sa table des vins un petit peu plus intéressants, il faut maintenant mettre des prix relativement élevés, ça c'est clair.
Il y a un élément, quand on s'intéresse un petit peu aux vins de Loire, qui nous semble intéressant de noter, c'est ce qu'on appelle l'aléa climatique. Peut-être plus que dans d'autres régions, la Loire connaît des années particulièrement difficiles. Alors peut-être que c'est le cas cette année où il y a du gel à un moment où on n'a peut-être pas envie qu'il y ait du gel. Je ne sais pas ce qu'il en sera de cette année. Puis il y a encore quelques mois à venir avant la vendange. Mais est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est vrai que voilà, tous les 3, 4, 5 ans, on a un millésime particulièrement compliqué, ce qu'on ne connaît pas forcément. On connaît l'aléa climatique un peu partout, évidemment, mais peut-être que sur la Loire, c'est particulièrement vrai où les vignerons sont confrontés à des récoltes qui disparaissent en grande partie une ou deux fois dans une décennie.
Le problème, c'est que c'est même plus trop une ou deux fois par décennie. En fait, là, les vignerons de Loire ont connu quand même deux ou trois années successives, hein, soit par le gel tardif, qui anéantit quand même une bonne partie de leur récolte. Hein, ça va, il y a des pertes entre 20 et 70%, et parfois plus. Donc là, c'est une réalité avec des conditions climatiques qu'on commence à observer comme des froids qui viennent très tardivement, donc qui demanderont certainement des adaptations, peut-être au niveau de la taille, je ne sais pas, là je ne suis pas vraiment un spécialiste, peut-être aussi en termes de solidarité entre les vignerons, parce que ce qu'on a vu notamment dans certaines régions au printemps dernier, quand il y a eu le gel très tard, au mois d'avril, où tout le monde s'est un petit peu organisé pour essayer d'allumer des grands feux dans le vignoble. Donc chacun avait peut-être une action un petit peu isolée précédemment. Maintenant, on sent qu'il y a une espèce de solidarité qui pourrait naître de ces difficultés.
Ça les pousse à des collaborations pour sauver un petit peu ce qui peut l'être.
Oui, des mobilisations ponctuelles. Alors, après ça, il n'y a pas que le froid, malheureusement. Hein. Il peut y avoir aussi des conditions climatiques difficiles au mois de mai, au mois de juin, quand il y a des pluies, notamment importantes, et qui provoquent des attaques de mildiou conséquentes. Hein. C'était, il n'y a pas encore très longtemps, ça s'est produit. Donc, c'est assez. C'est peut-être même pour certains assez troublant, parce qu'en fait, il y a des vignerons qui n'ont pas connu une année pleine depuis pas mal de temps en Loire. Ils ont des productions réduites du fait des conditions climatiques. Après, il y a des difficultés qui peuvent être liées à la sécheresse, peuvent être liées à des fortes chaleurs qui proviennent à des moments qui ne sont pas adéquats. Et ça, c'est un véritable problème. Je pense que à plus d'un titre, la Loire a été touchée quand même peut-être plus largement que d'autres régions. Même si quand on se déplace dans le vignoble, on se rend compte que il y a beaucoup d'endroits où, où les vignerons n'ont pas l'impression de produire les quantités de vin qu'ils pourraient produire si les conditions étaient standards, entre guillemets.
Merci pour ces éléments. Pour conclure, est-ce que vous avez comme ça quelques vins, quelques vignerons que vous aimeriez mettre en avant, peut-être des découvertes récentes ou des zones dans lesquelles vous sentez qu'il y a une dynamique. Souvent, les dynamiques sont incarnées par, quelques vignerons qui font progresser certaines appellations. Il y a des choses comme ça que vous pourriez nous conseiller, quelle que soit la région la sous-région à l'intérieur de cette très grande région.
Il y a par exemple la région de Saumur puis Notre-Dame qui fait des choses très intéressantes, hein, qui est une petite appellation du Saumurois, qui est un petit peu à l'image de Saumur-Champigny par exemple, ou de l'appellation Saumur, bien évolué. Puis Notre-Dame, ça fait partie des endroits dans lequel on peut vraiment découvrir des véritables pépites.
Alors, merci pour ces éléments. Donc, nous, on est en train de déguster deux vins. Voilà. D'habitude, on n'en prend qu'un. Puis là, on s'est dit, tiens, on va faire un match entre deux vins. Un match, pas nécessairement, ce n'est pas une compétition. On va juste s'amuser à les comparer. Alors, je pourrais vous faire le coup de la dégustation où vous n'avez pas les verres, donc on va vous libérer. Mais est-ce que vous connaissez peut-être ces vins-là? Ce sont donc deux Caux. Ou Malbec, mais on va s'appliquer à dire Caux, parce que dans la Loire, on dit plutôt...
En Loire, c'est le Caux. Hein.
C'est le Caux, voilà, c'est ça. Je me suis fait déjà reprendre, vous savez, hein. Pendant qu'on préparait. J'ai dit, ah ben oui, c'est le Malbec. Non, c'est le Caux. Et ce qui est écrit sur la bouteille, c'est le Caux. Laurent, quels sont les vins qu'on déguste,
hein? En fait, on a sélectionné deux vins de Touraine, donc 100% Caux. L'un réalisé par un vigneron de Mont-Louis, qui s'appelle Régis Danseau, qui travaille en bio. Il met très très peu de sulfite dans ses vins. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai sélectionné, parce que ces vins sont généralement très digestes, très nature, très fruités. Donc Régis Danseau d'un côté, avec sa cuvée qui s'appelle, je crois, Bruyère Marin. Donc c'est un millésime 2015. Et par ailleurs, un domaine beaucoup plus connu, qui est celui de Jean-François Mériot, qui a une cuvée qui s'appelle Sans Visage, elle aussi 100% co, et on est sur un...
Sans Visage, le chiffre, hein, le nombre.
Alors, hein, Sans Visage, oui.
C-E-N-T.
C-E-N-T. Mais l'étiquette peut laisser penser aussi que c'est Sans Visage, S-A-N-S, puisque...
Y aurait-il un jeu de mots?
Je pense qu'il y a un jeu de mots. En fait, il explique que le co, justement, est un cépage à multifacettes, et que c'est ce qui l'a intéressé dans ce cépage et dans cette cuvée.
Vous confirmez, le Caux, c'est un cépage à plusieurs visages?
Oui, en plus, les vignons s'attachent à l'extraire plus ou moins, donc ça peut faire des expressions assez différentes, en plus des aspects terroirs, et c'est un cépage qui est aussi très intéressant.
Merci beaucoup, Philippe Rapiteau, pour ces petites précisions qui nous ont aidé à entrer un petit peu dans ce vaste vignoble de la Loire. Je renvoie à votre blog, La Pipette aux 80, pour apprendre des choses sur les vins, rencontrer découvrir des vignerons, qu'ils soient de Loire ou d'ailleurs. À bientôt, au revoir.
Au revoir, bonne dégustation alors.
Merci beaucoup, au revoir. Alors, messieurs, les deux Caux que nous avons en verre, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur ce cépage, le Caux, qui nous permettrait de le définir?
On peut peut-être déjà en dire, effectivement, que c'est un cépage qui a ses origines dans l'Yonne, apparemment. Historiquement, il a d'abord été implanté dans l'Yonne.
L'Auxerrois, donc.
Et puis, d'où son nom, l'Auxerrois, effectivement. Et il a migré dans différentes régions de France. Donc la Loire, où il est assez peu cultivé, le Bordeaux, parce qu'il faut savoir que dans beaucoup d'assemblages de Bordelais, on a une dose de Malbec, notamment du côté de Saint-Émilion.
D'accord.
Et évidemment, donc sur Cahors, où on l'appelle donc Auxerrois, Et depuis maintenant pas mal de décennies, en Argentine et au Chili, surtout en Argentine. Et d'ailleurs, c'est le succès du Malbec argentin qui a redonné un coup de fouet au Cahors. Puisque les vignerons de Cahors ont décidé d'enlever cette notion d'Auxerrois pour passer à Malbec, qui était plus vendeur pour des marchés notamment d'export.
Et en Loire, en Val-de-Loire, visiblement, ces expressions, les meilleures sont en Touraine. Et notamment la vallée du Cher jusqu'à Mont-Louis. C'est là où ils trouvent les meilleurs terroirs d'expression. Je crois qu'on est sur des argiles avec un peu de silex. Mmh. Donc visiblement, dans le Val-de-Loire, c'est ce sol-là qui le révèle le mieux.
Et donc, c'est un cépage qui fait des vins plutôt tanniques, hein, ce qui est quand même pas l'image qu'on a nécessairement de la Loire. C'est aussi pour cette raison qu'on s'est lancé dans cet exercice de présenter un co, parce que voilà, c'est un vin qui demande à vieillir. Et je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais je trouve que celui de Mériot, notamment, le sans visage, exprime un gros, gros potentiel de garde. Le premier, celui de Régis Danseau, est certainement plus sur du fruit, sur un côté très buvable tout de suite.
Très immédiat.
Ouais, très immédiat, voilà.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas de figure, on est sur un 2015, qui est plutôt un bon millésime en Loire.
Comme à peu près partout.
À peu près partout, mais qui est un bon millésime en Loire, qui connaît les acclimatiques. Donc la Loire s'en est vraiment bien sortie cette année-là. Et qu'on est quand même globalement sur un millésime. Alors c'est pas 2003 non plus, qui était l'année de la canicule, mais c'est un millésime assez solaire. Qu'on retrouve un tout petit peu, mais qui reste quand même, enfin on voit qu'on est sur un Malbec du Nord, quoi, ça reste quand même très 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 frais, très très très, très équilibré, avec effectivement plus de corpulence, plus de tannin sur le sans visage, et quelque chose de beaucoup plus accessible, immédiat sur le brillant marin de Danseau. Ouais.
Ouais. Je pense que l'âge des vignes y est certainement aussi pour quelque chose.
En termes de concentration.
La concentration du sans-visage est supérieure. Je pense qu'il y a vraiment... Les vignes de Mériot ont une cinquantaine d'années et ça se ressent dans le vin.
Quelque chose d'un peu plus concentré.
Donc on a vraiment quelque chose de très... d'une couleur très, très, très intense. Grenat.
Un beau grenat qui vire au noir par endroit. Ouais.
On a des arômes de fruits très mûrs et bon, théoriquement, avec le temps, ça doit évoluer sur du pruneau. On a vraiment quelque chose de très agréable. Avec... Et en bouche, pardon.
Mais non, vas-y.
Et en bouche, moi, ce qui m'épate, c'est que je le trouve très, très velouté. Très velouté. Tout en ayant des tanins assez prenants, on a une bonne sensation en bouche. Et une assez grande longueur sur ces fruits mûrs.
Oui, c'est vraiment ça, les fruits mûrs. Et qu'est-ce qu'on accompagnerait, quel type de plat avec ces cos?
C'est typiquement ce qu'on mange jamais, c'est-à-dire les gibiers, les choses comme ça. Maintenant,
encore le coup du gibier.
Non, mais des viandes en sauce, un petit peu.
Oui, des viandes en sauce.
Viande rouge en sauce.
Plutôt une viande rouge, oui.
Mais c'est pas un vin d'apéro, quoi. C'est vraiment le vin qui s'accommode bien avec des plats un petit peu travaillés, et notamment avec de la mâche, quoi.
Il y a de la texture, en effet. Si on devait juste, pour terminer, donner la grande différence entre les deux, c'est vraiment une question de puissance et de capacité de garde. Sinon, les fondamentaux sont les mêmes. L'un est plus tannique que l'autre, quoi.
Ouais. Par contre, je trouve le bruyant marin très intéressant aussi. Je le trouve plus épicé, enfin, personnellement, en termes de goût. Et donc, il est plus léger, mais en même temps, avec un côté un peu plus épicé. Donc, je pense qu'il passerait très, très bien aussi sur, peut-être pas en apéro, mais sur des charcuteries un peu, entre guillemets, typologie Beaujolais, on va dire ça comme ça, hein, toute proportion gardée. Mais voilà, avec ce petit côté épicé, je pense que voilà, une pièce de bœuf, même sans sauce, ça irait bien, le petit côté épicé poivré. Ouais, irait chercher une belle petite pièce de bœuf sans forcément mettre de la sauce.
Limite vin de barbecue, quoi.
Très juste.
Ouais, aussi, ouais, tout à fait.
Ça pourrait le faire.
Tout à fait.
Bah écoute, par ce temps glacial, on va rester sur l'idée du barbecue qui nous projette déjà vers les beaux jours, et ça ferait du bien, un petit peu de soleil en ce mois de mars. Merci messieurs pour ce premier tour en en Loire, voilà, qui est un cépage, une grande région viticole, la troisième région française. On va continuer à explorer ce terroir et ces différents vins. On a choisi donc de prendre l'angle des vins rouges. On goûtait ce soir, on dégustait ce soir des vins à base du cépage Caux, qu'on appelle également le Malbec. On va continuer et on va explorer, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais on va explorer également ce qu'il en est du Cabernet Franc, ce qu'il en est du Pinot Noir, exploité en Loire, et également ce cépage, le Pinot de Nice, dont on a déjà dit un mot et qui va donc être l'objet de notre prochain épisode avec un vigneron au téléphone qui sera Patrice Collin et dont on va évidemment déguster le vin. Merci de nous suivre, merci de nous écouter et on continue sur la route des vins de Loire. À très bientôt, au revoir.